ce matin, on m'a fait la grâce de pouvoir partager un peu un message. Alors, je ne suis pas un théologien, je ne vais pas parler des mots en grec et en araméen. On va parler d'un homme dans la Bible que j'apprécie beaucoup. C'est Joseph, mais pas Joseph de l'Ancien Testament. Je parle de Joseph, l'époux de Marie, qui est un homme dont la Bible ne parle pas trop. On en parle un peu au début, après c'est silence radio. On n'en parle plus, on ne sait pas quand est-ce qu'il est mort. On se doute qu'il est mort pendant la vie de Jésus, puisqu'à la croix, Jésus confie sa mère Marie à son disciple Jean, ce qu'il ne l'aurait pas fait si Joseph était encore en vie. Donc probablement il est mort assez tôt, on ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais pourtant, il y a quelques versets dans Matthieu, on va lire dans Matthieu, quelques versets qui sont vraiment très profonds sur la vie de Joseph. Et je crois que le Seigneur va nous parler ce matin. On va pouvoir tirer quelques clés pour nos vies. Et j'en profiterai pour donner quelques témoignages là-dedans. Mais avant de parler de Joseph, j'aimerais justement parler un peu de ma propre vie, si vous le permettez. J'ai senti que le Seigneur me mettait ça à cœur. Ça peut peut-être encourager quelqu'un. Comme je l'ai dit, je m'appelle Pierre. Je suis français. Et mes parents sont chrétiens. Ils étaient missionnaires aussi à Jeunesse en Mission pendant presque 25 ans. J'ai été élevé dans la foi chrétienne. Je remercie vraiment le Seigneur pour ça. C'est une grâce. Ils ont vraiment investi dans ma vie. Mes parents nous ont éduqués dans la parole de Dieu. Mais, vous savez, avoir des parents chrétiens, ça ne garantit pas d'être sauvé. Il faut être conscient de ça. Et je le dis pour les enfants, les jeunes qui sont là. Peut-être que vous êtes venus avec vos parents à l'église ou bien vos parents sont chrétiens. Mais ça ne signifie pas qu'automatiquement, tout est gagné pour vous. Et j'en ai fait l'expérience. Mes parents sont chrétiens, on a été élevés selon la parole de Dieu. Et pourtant, j'étais en France, à partir de l'âge de 15 ans, j'ai commencé à déconner complètement, faire n'importe quoi, tomber dans l'alcool, dans la drogue. Je m'étais laissé pousser les cheveux, j'avais les dreadlocks comme les Rasta. J'ai rien contre les Rasta, mais malheureusement, j'avais la vie qui va avec. J'ai grandi comme ça jusqu'à 23 ans. Dans une vie vraiment du n'importe quoi. Mais devant mes parents, je faisais bonne figure, hein, tout allait bien, j'étais un enfant modèle. Mais à l'extérieur, c'était autre chose, une double vie. Et en 2010, j'avais 23 ans, j'en avais marre de la France, j'en avais marre des études, j'étais dans ma dernière année à l'université en licence d'économie, je ne sais même pas pourquoi je faisais ça. Et je me suis dit, il faut que je voyage, il faut que je parte, il faut que je quitte la France. Et c'est ainsi que j'ai dit à ma maman, est-ce qu'elle n'aurait pas des contacts au Burkina ou bien au Togo? Je savais qu'elle avait quelques petits projets de soutien pour des personnes là-bas. Et elle m'a dit, oui, y a quelqu'un qui gère un orphelinat au Togo, dans le sud du Togo, tu pourras aller là-bas. Sans savoir que c'est le Seigneur même qui planifiait tout ça, moi j'en savais rien. Donc j'ai dit, d'accord, je vais partir à l'aventure. J'ai pris un billet d'avion, aller simple. Je me suis dit, on va voir ce qui va se passer. J'étais parti avec mes dreadlocks, avec mon sac à dos. Et je suis arrivé un lundi, le 28 septembre, si je me rappelle bien, 2010. On m'a accueilli au Togo, à Tablikbo, une petite ville non loin de la frontière, enfin à l'est du Togo, près de la frontière du Bénin. Et je suis arrivé un lundi soir, on m'a accueilli là-bas. Mardi matin, le lendemain donc, je me réveille. J'ai un petit temps, un entretien avec le mari de la responsable de l'orphelinat qui me pose des questions, comment tu vas, etc. Et d'un coup, il me pose une question qui venait directement du Seigneur, mais j'en savais rien. Il me dit, Pierre, quand as-tu donné ta vie à Jésus? Et là, j'étais complètement désarçonné. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Et je me sentais un peu pas piégé, mais tu vois, s'il m'avait dit, t'as donné ta vie à Jésus, j'allais dire, bah ouais, mes parents sont missionnaires, je suis chrétien. Mais comme il a dit quand, c'est comme j'étais obligé de donner une date, quelque chose, quoi. Et puis j'étais là, j'ai dit, bah non, j'ai pas donné ma vie à Jésus. Il dit, bah tu veux le faire maintenant? Je dis, bah ouais, mais je me sentais tellement libre de le faire à ce moment-là. C'est comme si mon ancienne vie, les copains, les amis, la drogue, l'alcool, c'était loin derrière moi. J'étais au Togo, seul et libre en fait. Et j'ai dit, bah ouais, je veux bien donner ma vie à Jésus. Il m'a dit, bah on va prier ensemble. Il m'a fait répéter une prière classique, la prière du salut. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire, enfin, physiquement en tout cas ou quoi, mais c'était une décision sincère. Et c'est à partir de ce jour, le 29 septembre, si je me rappelle bien, que j'ai mis ma vie en règle avec le Seigneur. Je l'ai invité à prendre la première place dans ma vie, dans mon cœur, et je lui ai consacré ma vie. Depuis, j'ai plus touché à la drogue, je me suis plus saoulé. Enfin, j'ai laissé complètement mon ancienne vie du jour au lendemain. Aucun manque, rien. Je me suis coupé les cheveux, comme vous le voyez. J'aurais pu les laisser. Mais le Seigneur a transformé ma vie. Et c'est comme ça que je suis resté au Togo. Et j'ai rencontré ma charmante fidèle, qui va venir tout à l'heure pour me rejoindre avec la famille. Et on a commencé à cheminer ensemble avec fidèle. Et voilà, des sentiments ont commencé à naître, je vais vous passer les détails. Mais ce qui est aussi intéressant, et c'est notre histoire, Fidèle, elle avait deux filles, Gloria et Clémence, qui à l'époque avaient 5 ans et 2 ans. Elles étaient toutes petites. Et voilà, elle les avait eues aussi dans son ancienne vie, avant de mettre sa vie en ordre avec le Seigneur. Et moi, j'étais là, je viens d'arriver au Togo, je me convertis, je tombe amoureux, elle a des enfants. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Mais j'ai cherché la face du Seigneur. Est-ce bien toi, Seigneur, comme on dit souvent à Jeunesse en Mission? Et j'ai prié, j'avais une paix, j'ai demandé aussi le conseil de certains. J'ai senti que ouais, Dieu me disait, c'est elle, c'est la femme de ta vie. Et Dieu m'a dit, si tu prends Fidèle comme épouse, c'est pas elle seule que tu prends, mais tu prends aussi Gloria et Clémence avec toi. C'est un paquet cadeau. Et j'ai dit, bah ouais, ok. Et j'ai marché sur cette conviction que j'allais prendre Fidèle comme épouse et on allait former une famille recomposée. Mais alors, le début des ennuis, hein, parce que ça ne passait pas. Vous savez, quand le Seigneur a un projet, l'ennemi, il s'acharne. Plus le projet du Seigneur est bon, ou bien plus ça vient de Dieu, plus l'ennemi est là, il met des bâtons dans les roues. Et je me souviens d'ailleurs un jour, le premier jour où j'ai invité Fidèle, il n'y avait rien à ce moment-là, on a juste discuté, c'était pour faire connaissance. On a passé un après-midi à parler ensemble, sans arrière-pensée. Le soir même, il y a quelqu'un, une des responsables, qui m'appelle. Pierre, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, qu'est-ce que je fais? Rien, je discutais avec une amie. Non, fais pas ça. Ça, c'est le diable. Ça, c'est un projet du diable. Il veut te détourner. Et elle a commencé à me dire des choses, que ça ne vient pas de Dieu. Il faut que je fasse attention. J'ai qu'à vraiment prier. Le diable est en train de me vouloir détourner du projet de Dieu. Des choses. Et ça a continué comme ça pendant des semaines et des mois. Les gens sont vraiment opposés à notre relation. Mais j'ai préféré écouter la voix du Seigneur plutôt que la voix des hommes. Les hommes ont voulu me décourager. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Je ne vais pas donner tous les détails. Mais je me suis appuyé sur la parole que le Seigneur nous a donnée. On a marché par la foi et le Seigneur nous a bénis, nous a rejoints. On a fini par se marier en 2013. Bien sûr, on a accueilli Gloria et Clémence, c'est les deux filles de Fidèle avec nous. Dieu nous a encore bénis avec trois autres enfants, Élisée, Hosanna, Phinéas, que vous verrez tout à l'heure. Et voilà, nous sommes au Togo, engagés à Jeunesse en Mission depuis tout ce temps. Et c'était juste pour donner un petit aperçu aussi de ma vie et de ce que le Seigneur a fait. Et j'aimerais vraiment qu'on garde cette idée que lorsque Dieu parle, il faut obéir. Et peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les hommes vont dire, ils vont décourager, ils vont vouloir nous détourner. Mais c'est la parole de Dieu qui compte le plus. C'est la conviction qu'on reçoit du Seigneur qui est importante et qu'on doit suivre. Amen. Voilà notre histoire de Joseph. On vient dans Matthieu 1, versets 18 à 25. On va décomposer un peu. Et ça nous dit là-bas, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, je dirais malheureusement, quand on était fiancé, il n'était pas question d'habiter ensemble, de coucher ensemble et d'avoir des enfants. Selon la parole de Dieu, il faut faire les choses bien quand même. Et les Juifs étaient quand même très à cheval là-dessus. On le voit dans la loi, dans l'Ancien Testament. Ainsi, une vierge a été trouvée non vierge. Ou bien si une fille qui devait se marier, on découvrait qu'elle n'était pas vierge, on pouvait la prendre et la lapider. J'ai lu ça récemment dans Deutéronome. Si le mari arrivait à prouver que sa femme n'est pas vierge, on l'amenait et puis on la lapide. Alors, c'était quand même sérieux. Et c'est intéressant de voir ce contexte parce que Marie, elle se retrouve enceinte et Joseph, on dit son époux parce que voilà, mais ils étaient fiancés. Bah, mettons-nous deux minutes à sa place, quoi. Le gars, il n'a rien fait. C'est pas l'envie qui lui manque, peut-être. C'est un homme, après tout. Il est fiancé. Et d'un coup, sa femme, elle dit, je suis enceinte. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Et on nous dit, il est un homme de bien. Et il ne voulait pas la diffamer. Parce qu'effectivement, la solution la plus simple pour lui, c'est quoi ? Ah ! Comment t'as pu tomber enceinte ? Moi, j'ai rien fait. Et il peut commencer à crier ça sur tous les toits. Les gens vont commencer à pointer Marie du doigt. Lui, il n'a rien fait, donc on ne l'accuse pas. Et finalement, c'est Marie qui va se retrouver femme adultère, accusée de tous les maux. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Et complètement rejetée. Mais Joseph, qui a un cœur, il dit non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas la diffamer. Et il s'est trouvé d'autres solutions. C'est intéressant de voir que Dieu a des plans, mais il passe par des hommes. Moi, je me dis, mais si Joseph avait rejeté Marie, qu'est-ce qui se serait passé ? Il avait quand même sa part à jouer. Et Dieu a fait confiance à cet homme, Joseph. Et il n'a pas voulu lui donner la honte, la diffamer, l'exposer en public. Mais il a commencé à réfléchir, peut-être de rompre secrètement, de trouver une solution. Et le verset suivant, le verset 20 nous dit, « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Comme il y pensait. C'est marrant parce qu'on dit qu'il lui apparut en songe. Ça veut dire qu'il dormait. Mais en même temps, il y pensait. Ça, c'est quand on est troublé. Tu as des problèmes, ça te retourne le cerveau, tu dors et puis tu penses encore à tout ça. Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette fiancée qui est enceinte ? Moi, je n'ai rien fait. C'est compliqué. Il se pose plein de questions. Et un ange du Seigneur lui apparaît pour lui annoncer la vérité. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ne crains pas de la prendre. Elle va enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est marrant parce que récemment, c'était cette semaine, il y a 2-3 jours, j'ai relu ce passage. Tu lui donneras le nom de Jésus. J'aimerais faire une parenthèse. Quelqu'un a dit une fois une phrase qui m'a beaucoup marqué. Et j'aimerais vous la dire, c'est un peu compliqué, mais c'est important que je le dise, je crois. Ça parle de l'identité. Quelqu'un a dit, la personne à qui tu laisses te donner ton identité aura autorité sur ta vie. Ou inversement, celui à qui tu donnes l'identité, tu auras autorité sur sa vie. C'est un enseignement sur l'identité, je ne vais pas trop m'égarer, mais c'est important. Depuis le commencement, depuis le jardin, c'est ce qui s'est passé. Avec l'ennemi qui est venu attaquer l'identité d'Adam et Ève. Et finalement, Adam et Ève ont laissé l'ennemi leur redéfinir leur identité et il a pris autorité sur leur vie. Et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Et cette semaine, j'ai vu, avec la famille, on a vu le film de Cendrillon. Tout le monde connaît l'histoire de Cendrillon. Mais c'est très intéressant ce film, cette histoire, elle est passionnante. Je l'ai vu avec ce regard sur l'identité. Cendrillon, elle est la fille de ses parents, ils ont une belle vie, un château, tout va bien pour eux. La maman meurt, le papa se remarie avec une veuve qui a déjà 2 filles, vous connaissez l'histoire. Finalement, le papa meurt aussi, et Cendrillon, elle se retrouve avec cette belle-mère et 2 belles-sœurs qui sont méchantes, qui sont cruelles, qui ne l'aiment pas. Alors que Cendrillon, elle est chez elle, elle est dans sa maison, elle est l'héritière, elle a tout à disposition, mais elle laisse finalement cette belle-mère méchante et ses 2 belles-sœurs lui redonner une autre identité. Elle s'appelle, je crois, Ella, ou bien je ne sais plus. On lui dit, tu t'appelles Cendrillon, celle qui dort à côté de la cendre. Donc c'est un surnom moqueur, Cendrillon, parce que chaque fois elle est couverte de cendres. Tu t'appelles Cendrillon. Et Cendrillon, elle commence à accepter cette nouvelle identité et finalement, elle perd son autorité. Elle ne sait plus qui elle est, elle devient Cendrillon, l'esclave de la maison, et c'est sa belle-mère et ses 2 belles-sœurs qui ont autorité sur sa vie. C'est intéressant. Et nous maintenant, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait de nos jours ? Qui définit notre identité ? Vous voyez, Jésus, il a tout accompli à la croix. On est enfant de Dieu, on l'a chanté ce matin, ça m'a fait du bien. On est enfant de Dieu, on est co-héritier avec Christ. On a à disposition tout cet héritage spirituel, toutes ces bénédictions. Mais, est-ce que vraiment on le vit ? Si jamais on laisse l'ennemi nous définir notre identité, t'es un raté, t'es un bon à rien, tu arriveras jamais, t'es ceci, t'es cela. Et bien finalement, on redonne cette autorité à l'ennemi et on passe à côté de cet héritage. On devient comme Cendrillon, qui était héritière, mais qui ne savait pas, elle est redevenue esclave. Amen. Que le Seigneur nous aide. Pourquoi je parle de tout ça? Tu lui donneras le nom de Jésus. Dans Luc, l'ange dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Dans Matthieu, l'ange dit également à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas l'affirmer dans son identité et tu auras aussi autorité sur sa vie. Quand je me suis marié avec Fidèle et qu'on a accueilli Gloria et Clémence dans la famille, j'étais tout jeune, j'avais quoi, 24 ans, 25 ans, j'étais jeune converti quand même. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai aucune expérience de papa, j'en sais rien. Et je me souviens, j'avais appelé Gloria et Clémence, elles étaient toutes petites. Et je leur ai dit, bah voilà, on les a déjà prévenus, je vais épouser votre maman, on va fonder une famille. Mais libre à vous de m'appeler comme vous voulez. Vous pouvez m'appeler tonton Pierre, tonton, oncle, Pierre. Ou alors vous pouvez m'appeler papa aussi si vous le voulez. Ça ne me dérange pas, ça me ferait plaisir. Mais à vous de choisir. Et je leur ai dit ça, je m'en souviens, peut-être qu'elles ont oublié. Elles sont grandes maintenant. Mais elles ont réfléchi un peu et rapidement, elles ont commencé, papa, papa. Et elles m'ont appelé papa. Et ça a créé une famille. Vous voyez, c'est une identité en fait qui a été créée à ce moment-là. Mais je ne leur ai pas imposé, mais elles l'ont choisi volontairement. Et ça m'a réjoui. Et je suis le papa le plus heureux du monde. Amen. Donc, on continue notre histoire de Joseph. Oui, verset 22. Ok, ça saute à 24. Oui, vas-y. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie tellement chez Joseph. On va le voir encore après. Joseph, c'est quelqu'un, quand Dieu parle, il obéit. Il n'hésite pas, il ne réfléchit pas. Quand il reçoit une parole du Seigneur, il obéit aussitôt. On dit, s'étant réveillé, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Encore une fois, et nous, enfin les hommes en tout cas, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ta fiancée est enceinte, c'est pas évident, un ange te parle, tu la prends avec toi. Est-ce qu'on aurait obéi? Et la Bible aussi est silencieuse là-dessus, mais on peut facilement imaginer ce que ça représente, surtout dans le contexte de l'époque, chez les Juifs. Imaginons deux minutes, il accepte de prendre avec lui Marie, sa fiancée, il ne la touche pas, ils n'ont pas de relation sexuelle, ils sont comme des amis, des fiancés, et pourtant, le ventre commence à grossir, semaine après semaine. La Bible ne dit pas ça, mais on sait que ça s'est passé, c'est une grossesse normale en fait, elle a accouché normalement. Et au bout d'un moment, le ventre sort, et tout le monde voit qu'elle est enceinte, mais ils ne sont pas mariés. Ça a dû, les oreilles ont dû siffler, comme on dit, hein, dans ce petit village, dans cette petite ville. Les gens ont dû parler. On imagine, ils vont au marché, elle va avec son gros ventre. Et puis les gens, montrer du doigt, se moquer, parler entre eux. Regarde, c'est les deux là. Ils n'ont même pas mis leur vie en règle. Elle est déjà enceinte. Ils ne peuvent pas dire, oui, non, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ce bébé. Ce n'est pas possible. Donc ils ont dû affronter le regard des autres, la moquerie, la honte. Mais ils l'ont accepté parce que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, ça coûte. Obéir au Seigneur, ça coûte. Ce n'est pas toujours évident. Ça va demander du courage et de la persévérance. Il y a un coût à l'obéissance à la voix du Seigneur. Amen. Le temps passe. On va dans Matthieu au chapitre 2. Il y a cette histoire, on ne va pas tout lire, mais j'ai mis là-bas, environ 2 années passent avec l'histoire des mages. Pourquoi j'ai précisé? Parce qu'il y a un peu de confusion avec tout ce qu'on nous montre souvent à Noël. On nous montre un peu une image de la naissance de Jésus. On mélange un peu les histoires. Je voulais juste rectifier en quelques minutes. En fait, c'est 2 histoires différentes. Jésus est né dans la crèche, comme on le sait. Et après, quand les mages arrivent, ce n'est pas tout de suite en même temps. La Bible précise bien, c'est au verset 11, je le lis ici, on dit que, on parle des mages, ils entrèrent dans la maison. Vous voyez, ce n'est pas dans la crèche. Là, ils ont déjà quitté la crèche et ils sont dans leur maison. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. On ne parle pas d'un nourrisson. On ne parle pas d'un bébé qui vient de naître. On parle d'un petit enfant. Donc, Jésus a quand même au moins quelques mois. C'est un petit enfant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Hérode, quand il voudra tuer tous les enfants, il dira de tuer tous les enfants qui ont moins de 2 ans. S'il venait de naître, il aurait dit bah, moins d'un mois, moins de 2 mois. Si c'est moins de 2 ans, ça veut dire qu'il a pu s'écouler jusqu'à 2 ans depuis la naissance de Jésus, environ. Donc il y a quand même quelques mois, en tout cas, qui sont passés. D'ailleurs, les mages, ce n'est pas des rois. On dit souvent les rois mages. Non, 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 c'est des mages. La Bible n'a pas parlé de rois là-bas. Est-ce qu'ils sont 3? On n'en sait rien. On ne l'a pas dit 3 non plus. Il y a plein de folklore autour de cette histoire. Mais en fait, non, non, c'est des mages venus d'Orient. Ils peuvent être 4, 5, 6, 7, on ne sait pas. Ils ont apporté 3 cadeaux, effectivement, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont 3, mais c'est juste des détails. En tout cas, donc, les mages sont venus, et le temps est passé, et le verset 13 de Matthieu 2 nous dit, on parle des mages, « Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Amen. Quand on lit ça, des fois on lit rapidement, mais c'est bien de prendre le temps. Tu vois le verset 14, Joseph se leva, pris de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. J'ai voulu faire une recherche pour voir la distance entre Bethléem et la frontière de l'Égypte. À vol d'oiseau, c'est au moins 300 kilomètres. Et par les routes, les gens ont fait quelques recherches. Les gens estiment qu'il a pu faire jusqu'à 1200 kilomètres pour arriver là où ils sont allés en Égypte. Il n'y a pas de voiture. Mais c'est tout simplement dingue, quoi. Le Seigneur lui apparaît en songe. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Joseph, il a le songe. Il se réveille. En même temps, il se lève. Il réveille Marie. Il réveille Jésus. Les amis, on part. On y va. En pleine nuit, ils n'ont même pas fait leur bagage, rien. Il a pris sa femme par obéissance à la parole du Seigneur. Il a pris sa femme, son fils, et ils sont partis. À dos d'âne peut-être, ou de chameau, je ne sais pas. En tout cas, ils sont partis à pied, peut-être avec un animal, pour faire un voyage des centaines de kilomètres, sans savoir vraiment là où ils vont aller, là où ils vont rester. Pas de provisions, on n'en sait rien. Mais c'est en pleine nuit que notre ami Joseph s'est levé et qu'il a pris sa famille pour partir. Et moi, je trouve ça tout simplement incroyable. La foi de Joseph et son obéissance, sa consécration à ce que Dieu lui dit. Et moi, c'est vraiment un encouragement pour moi, un témoignage, un exemple à suivre, que lorsque Dieu parle, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à faire des plans, il y a à obéir. Lui-même, il va se charger de la suite. On n'a pas tous les détails. J'imagine arriver près du Nil, traverser le Nil, j'en sais rien. C'est incroyable comme voyage, c'est incroyable. Plein de dangers, plein de risques. Les hommes vont comprendre. Avoir une famille à charge, ce n'est pas évident. Prendre soin d'une famille, ce n'est pas évident. Mais en pleine nuit, parce que Dieu a parlé, il doit prendre sa femme et son fils et partir dans un pays où il n'est jamais allé. Nous, on est venus en France ici, ça fait depuis des années qu'on planifie ce voyage. J'imagine se lever en pleine nuit et obéir simplement à ce que Dieu lui dit. Incroyable. Je parlais de notre voyage. Le Seigneur nous a mis à cœur de venir en France. C'était en 2016, la dernière fois qu'on est venu, avec Fidèle et Élisée, qui avait 2 ans à l'époque, Hosanna avait 3 mois. Et Gloria et Clémence n'avaient pas eu le visa. On nous avait refusé le visa. Au dernier moment, c'était un coup dur. On n'a pas compris pourquoi. Donc on est venu en 2016. Et après, moi, j'avais dit... Je ne veux plus faire ces tracas-là, faire toutes ces démarches. Et après, au dernier moment, on nous refuse, on ne peut pas venir en famille. C'était vraiment un choc. Et j'ai dit non, non. si on doit revenir en France, il faut que chacun ait la nationalité française. On vient avec nos passeports et pas histoire de visa. C'est ce que j'ai dit. Et il y a 2-3 ans, avec Fidèle, on s'est dit ben, il faudrait qu'on commence les démarches pour qu'elle puisse avoir la nationalité française. Puisque ça faisait quelques années qu'on était mariés maintenant. Et c'est comme ça qu'on s'est renseigné, on a commencé à faire le dossier. Et en remplissant le dossier, il demandait « Est-ce que vous avez des enfants ? Mariage ou hors mariage ?» Et là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais mettre là-bas » Parce que si je mets « Oui » et je mets les prénoms de Gloria et Clémence, est-ce que ça ne va pas nous, voilà, nous empêcher finalement ? Ils vont dire « Ah non, non, regroupement familial, ceci, cela, ils vont nous empêcher d'avoir la nationalité française. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Puis en dessous, il y avait écrit si vous ne les mentionnez pas maintenant, après c'est trop tard. Je paraphrase, mais c'était un peu l'idée. Et on s'est dit, on va faire ce qui est juste. Et on a rempli le dossier. On a mis Fidèle, on a mis Gloria, on a mis Clémence. On a constitué les pièces. Fidèle devait passer un entretien à l'ambassade. C'était toute une histoire aussi. On a commencé les démarches. On nous fait savoir que les papiers des enfants sont faussés, les papiers togolais, l'acte de naissance est faussé, il faut refaire la nationalité, il faut refaire les cartes d'identité. Et on était comme ça, on ne comprenait rien à ce qui se passait. C'était devenu compliqué. Et un jour, on était à l'église, là-bas à Palimé, là où on habite. Et le pasteur prêchait sur la foi. Et il disait comment, voilà, Hébreux 11, la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, etc., l'assurance de celles qu'on espère. Et il nous montrait comment la foi, c'est d'arriver à recevoir une pensée du Seigneur. Quelque chose d'impossible, même, bien que tu ne le vois pas, mais tu le visualises et tu dis oui, ça va arriver. Je crois à cela. Bon, je résume un peu son message. Et d'avoir la conviction sur le Seigneur que Dieu est capable de faire l'impossible. Et il parlait comme ça. À la fin du message, il dit, on va prier. Demandez au Seigneur de vous montrer quelque chose d'impossible qui pourrait arriver, qui pourrait faire. Et j'étais là, j'ai fermé les yeux et j'ai vu cette image de Gloria, Clémence et Fidèle devant l'église qui tenait leur passeport français. Et j'ai dit, yes, ça là, je saisis cette vision. Et j'ai commencé à avoir une joie, une assurance, une conviction dans mon cœur. Et j'ai proclamé que oui, Fidèle, Gloria et Clémence auront la nationalité française, elles auront leur passeport et tous les papiers nous seront accordés. Et je me suis basé sur cette vision, sur cette parole du Seigneur. Et après ça, j'étais plus dans des prières de quémander ou de demander au Seigneur, mais c'était plutôt de la reconnaissance. Seigneur, tu es capable, tu l'as fait, merci. Merci de ce que tu fais l'impossible. Et on a commencé à prier comme ça. Mes amis, quelques semaines, quelques mois plus tard à peine, on reçoit les mails de l'ambassade. Nous avons la joie de vous dire que Fidèle, Gloria et Clémence ont obtenu la nationalité française, etc. Alléluia! Et le Seigneur l'a fait. Et elles ont eu tous leurs papiers. On a fait les démarches. On devait payer les passeports. C'était aussi un défi financier. Fidèle avait mis de l'argent de côté de son petit commerce qu'elle fait, comme vous le savez sans doute, des cacaos, des petites choses qu'elle fabrique. Elle a mis ses économies de côté. On a pu payer les passeports. Et on a eu les passeports pour toute la famille. Et le Seigneur a pourvu. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Parce que lorsqu'on place en lui notre confiance, lorsqu'on tourne vers lui les regards, le visage ne se couvre pas de honte, mais on est rayonnant de joie. Et Dieu est capable de tout. Et rien ne lui est impossible. Et voilà comment nous avons planifié ce voyage. Dieu a pourvu pour les billets d'avion. Et nous voici ici. Alors nous, on a planifié notre voyage longtemps à l'avance. Mais Joseph, lui, c'était du jour au lendemain. Il a dû obéir au Seigneur. Il a voulu obéir au Seigneur. Il a pris sa femme et son fils et sont partis en Égypte. Et là, encore une fois, verset 15, on nous dit, « Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. » Vous voyez, Dieu lui a dit, « Reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Mais ça aussi, ce n'est pas évident. Mais il doit se dire, « Mais attends, Seigneur, c'est quand ?» Parce que Dieu ne donne même pas de date. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être un an, ça peut être 10 ans, il n'en sait rien. Lui, il doit quitter son pays, aller en Égypte et attendre. Attendre que Dieu parle. Ce n'est pas évident. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Et gloire soit rendue au Seigneur. On va terminer avec ce dernier passage. On va louper une petite partie. Versets 19 à 23. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi. Voilà, la parole vient. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Amen. Joseph, c'est le gars qui obéit. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël. Et verset 21, Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Il obéit à la parole de Dieu, à la lettre, en même temps, sans réfléchir, sans discuter. Et j'aimerais nous défier avec ça ce matin. Lorsque Dieu parle, est-ce que nous sommes prêts à obéir en même temps, sans réfléchir, sans faire des plans, sans faire trop des projets, sans poser de questions? Mais parce que Dieu a parlé, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain, parce qu'il est tout-puissant, il est digne de confiance, on peut lui obéir. Et le Seigneur va nous surprendre, mes amis. Le Seigneur va nous surprendre. Et nous le vivons avec Fidèle et les enfants depuis de nombreuses années. Nous sommes, je l'ai dit, missionnaires à Jeunesse en Mission depuis 12-13 ans maintenant au Togo. Nous vivons par la foi, comme tous les enfants de Dieu. La Bible dit « le juste vivra par la foi ». Nous vivons par la foi, nous n'avons pas de salaire à Jeunesse en Mission, mais le Seigneur est fidèle. Aujourd'hui, nous sommes tous les 7 ici devant vous en France. Je viens de parler des papiers, des passeports. C'est incroyable ce que Dieu fait. Depuis, j'ai passé les deux dernières années, avec mon compte en banque, je dis juste ça pour glorifier le Seigneur, avec 13 200 francs CFA sur le compte, ça fait 20 euros. Ce n'est pas des blagues. Une fois, j'ai réalisé ça et j'étais ému aux larmes. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu es fidèle? Ça fait 2 ans qu'on a 20 euros sur notre compte. Ni plus ni moins, ça ne bouge pas. Mais regardez, je ne suis pas mince. Le Seigneur prend soin de nous. On est en bonne forme, on va bien. Les enfants sont scolarisés. Je ne sais pas comment Dieu fait, je ne veux pas vous expliquer. Mais il est fidèle. Il est capable, c'est le Dieu de l'impossible. Et quand on place sur lui notre confiance, vraiment, il ne déçoit pas. Il ne déçoit jamais. Ça vaut la peine de placer notre espoir dans ce Dieu-là. Il n'a pas d'équivalent. Il est le seul vrai Dieu. Il est merveilleux et il est tout-puissant. Amen. D'ailleurs, je parlais de Fidèle qui avait dû passer un entretien à l'ambassade de France à cause des papiers. C'était vraiment amusant. On est arrivé là-bas. Ils ont commencé à nous poser des questions. Ils voulaient voir un peu si Fidèle peut parler français facilement, répondre à des questions. Donc, c'était beaucoup des questions rapides, rapides. Et puis la discussion a commencé à s'orienter sur qu'est-ce qu'on fait, comment on vit. Et puis on était là, mais elle dit, vous faites quoi? Alors on essaie d'expliquer, on ne voulait pas trop parler de l'évangélisation, tout ça, parce que c'est quand même un milieu un peu, voilà. Et finalement, elle dit, mais vous êtes payé ou pas? Je dis, bah non, on est bénévole. Elle dit, quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Et elle me dit, mais si les enfants tombent malades, alors vous faites comment? Vous attendez, ils vont mourir? On dit, ben non, non, on fait confiance. Bon, on laisse expliquer un peu, témoigner en même temps. Et la question, mais vous n'avez pas d'assurance? Je dis, ben non, on n'a pas d'assurance. Mais ce n'est pas possible, mais comment vous faites? En fait, elle ne voulait pas comprendre qu'on pouvait vivre en faisant confiance au Seigneur. Et c'est vrai, à vue humaine, ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Et le Seigneur est fidèle. Alléluia! Donc, je vais nous encourager à avoir foi dans ce Dieu-là et à obéir lorsqu'il parle, parce qu'il est digne de confiance. Amen. J'aimerais inviter mon épouse, je crois qu'elle avait aussi un témoignage à donner. Je vais lui laisser la parole. Que le Seigneur nous bénisse.
Bonjour. Je suis très reconnaissant au Seigneur d'être... On est très reconnaissant au Seigneur d'être là, devant vous ce matin. Le Seigneur m'a donné une parole, comme Pierre le dit, Dieu révéla ses paroles à Joseph dans ses songes. Et le Seigneur m'a donné une parole dans mes songes la fois dernière, par rapport à l'église, quand on priait, on sait qu'on doit venir ici. Et je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Qui est très simple, mais quand on est venu ce matin, ce que j'ai remarqué est que la louange est basée sur ce que le Seigneur m'a dit. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me dis, au début, quand on est rentré, j'ai vu beaucoup de personnes âgées. Je me suis dit, ben, ces gens, c'est sûr qu'ils sont, ils ont, qu'est-ce que je vais dire, quoi? Ce que je vais dire n'aura pas trop de... Ouais, je me suis sentie un peu comme ça. Mais c'est comme si le Seigneur m'a redonné la confiance sur quand on fait la louange, les paroles qui sortent. Particulièrement, ces deux chants qui parlent de « Je t'attends dans le lieu secret ». Ce chant que Pasteur Bernard a même redemandé qu'on chante encore. Je veux continuer en disant que, au fait, je veux donner un petit témoignage de ma vie. C'est vrai, quand j'étais petite, j'ai été élevée par une cousine, c'est pas ma mère. J'ai perdu mon papa très très tôt et chez nous, c'est la famille qui partage les enfants quand les parents ne sont pas capables. C'est pas la société ou bien c'est pas le gouvernement, mais les cousins, les oncles, tout ça. Donc, moi, j'ai été élevée avec une cousine qui est bien grande, plus que moi. Une cousine, mais une dame, quoi. Et elle va à l'église. Donc, on allait à l'église. On faisait beaucoup de choses à l'église. On faisait des jeûnes et prières. On prie, on fait beaucoup de choses. Cela veut dire que j'ai une idée de qui est Dieu, mais je n'ai pas donné mon cœur au Seigneur. Et quand je suis devenue adolescente, je vais dire adulte aussi, ça veut dire que j'ai une idée de qui est le Seigneur, mais je ne lui ai pas donné mon cœur. C'est ça qui va me conduire au tralala jusqu'à... Je vais avoir deux filles sans mariage, etc., etc. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur... On peut être dans l'église, on peut faire beaucoup de choses dans l'église, on peut être utile, louer le Seigneur, balayer l'église, nettoyer les champs, en tout cas faire beaucoup de choses, mais ne pas donner son cœur au Seigneur. Cela veut dire ne pas avoir de l'intimité avec Dieu. Vous voyez? Donc c'est très important, comme le chant l'a dit, qu'on attire nos cœurs vers le Seigneur, qu'on cherche vraiment à aller vers le Seigneur, parce que lui nous attend dans le lieu secret. Au fait, c'est la parole que le Seigneur m'a dit. Et je voulais évoluer comme ça en disant d'abord ma vie. Comment j'ai commencé, j'allais à l'église, mais je n'ai pas donné ma vie au Seigneur. J'ai eu Gloria et Clémence. J'ai beaucoup de difficultés. Et je me suis rappelée que j'allais dans une église, je louais le Seigneur. Je me suis rappelée qu'il y a un Dieu. Donc maintenant, je suis revenue vers ce Dieu. Et là, maintenant, je lui ai donné mon cœur. Je lui ai donné mon cœur. Avec toutes les questions derrière, les gens qui disent, c'est trop tard pour toi, tu as deux filles, tu n'as plus d'espoir. Qui va te marier avec deux filles? Moi-même, je me pose des questions. Qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai donné mon cœur au Seigneur. Et comme Pierre l'a dit, le Seigneur, si on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et notre regard ne se couvre point de honte. Quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, les jeunes, le Seigneur a changé mon histoire. Vous voyez? Le Seigneur a changé mon histoire. Quand je suis venue dans le lieu secret près de mon Dieu, et que chaque fois j'essaye de l'appeler au secours, j'essaye de lui dire, Seigneur, je suis là, je n'ai plus d'issue, il n'y a personne qui peut changer mon histoire, ce n'est pas toi. Et c'est vrai, il y a beaucoup de moqueries, les gens se moquent beaucoup de moi, parce que c'est vrai, j'ai tous les chances, je pourrais aller plus loin avec mes études, mais voilà, j'ai contourné autrement. Et c'est quand même la tristesse dans la famille, donc ça fait que tout le monde peut dire ce qu'il veut. Quand je suis venue devant le Seigneur et j'ai crié vers lui, le Seigneur a changé mon histoire. Le témoignage, c'est ça. Je suis devant vous aujourd'hui. En France, je viens d'un petit pays de l'Afrique. Le Togo est très petit et encore d'une petite ville, vous voyez. Mais je suis aujourd'hui devant vous et je suis mariée avec Pierre. C'est un témoignage pour moi. Le Seigneur a changé mon histoire. Pourquoi? Parce que je suis venue vers lui, je lui ai offert mon cœur. Amen. Donc, voilà mon témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est quand je suis venue devant le Seigneur, je lui ai offert mon cœur. Bien sûr, il a changé mon histoire. Mais en même temps, parfois, il y a toujours des questions. Il y a toujours des difficultés. Ça ne finit pas. Il y a toujours des défis dans la vie. Comment je peux arriver à marcher avec le Seigneur, à être rassurée, sachant que lui, en tant que Dieu, il est avec moi. J'ai besoin d'aller vers lui chaque jour. Je dis bien, chaque jour, j'ai besoin d'aller vers le Seigneur, me ressourcer. Le Seigneur nous attend dans le lieu secret pour qu'on vienne se ressourcer. Quelle est notre priorité dans la vie? Notre priorité, c'est quoi? Peut-être c'est de, pour certains, c'est d'avoir une bonne santé. Peut-être pour certains, c'est de pouvoir finir leur étude et avoir un bon métier. Mais la priorité pour un être humain, pour moi, c'est d'aller d'abord dans le lieu secret et recevoir de mon Dieu chaque jour. Ça fait que quand je sors, je suis rassurée, je peux dire, l'Esprit qui est en moi peut témoigner que oui, je suis enfant de Dieu. Au moment que le Saint-Esprit n'a pas témoigné ça en toi, au moment que tu n'étais pas allé dans le lieu secret pour te ressourcer et recevoir ça de Dieu, ça fait que tu marches avec des doutes. Tu n'as pas la cette conviction et comme le monde est rempli aussi des pourquoi, des questions, des difficultés, ça fait que tu es balancé. Mais quand tu es rassuré, quand tu es allé dans ce lieu secret, tu as reçu du Seigneur ce témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur que tu es enfant de Dieu, ça fait que tu peux marcher la tête haute. Amen. Donc, c'est juste moi, mon témoignage. Je ne sais pas ce que ça peut faire. Peut-être ça ne peut pas dire grand-chose à quelqu'un, ou bien peut-être ça peut dire quelque chose à quelqu'un. Mais ce que j'ai, que je peux vous donner ce matin, c'est si tu viens, si tu cherches chaque jour, je dis bien chaque jour, à être dans la présence de Dieu, à se ressourcer dans le Seigneur, ça fait que le Saint-Esprit peut te rassurer que tu es enfant de Dieu et tu peux marcher la tête haute dans ce monde rempli de pourquoi, et sachant que le Dieu qui a créé ce monde est avec toi, tu n'as rien à craindre. Amen. Je ne sais pas si c'est possible, mais moi j'ai vraiment envie qu'on puisse chanter encore ce chant.